Vous êtes à l'écoute de Haute Fréquence et nous entamons la partie dossier de cette édition. Et nous le faisons en votre compagnie, Marie-Claude Cudry, bonsoir.
Bonsoir.
Alors en marge de l'exposition Toutankhamon que l'on peut actuellement découvrir à Genève, nous allons nous intéresser à votre suite, à ce monde fascinant, c'est celui de l'Égypte antique.
Oui, je vous propose un voyage dans le temps au pays des pharaons, des reines, des dieux et des déesses, au nom des plus évocateurs. Si je vous dis Néfertiti, Cléopâtre, Khéphren, Mykérinos, Isis, Horus, Anubis, ça vous rappelle certainement quelque chose qui arrive.
Quelques vagues souvenirs, oui, bien sûr, d'histoire scolaire et puis de bande dessinée aussi.
Bien, tous ces personnages ont vécu et ont été vénérés bien avant l'ère chrétienne. Mais si l'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de continuité ou de complémentarité entre le monde de l'Égypte antique et, par exemple, le monde judéo-chrétien. Certaines cosmogonies, certains mythes fondateurs sont semblables. Prenons la création du monde. En Égypte, tout commence avec le Noun, une immensité d'eau et de ténèbres, d'où émerge un dieu, l'eau, les ténèbres, le Noun.
Ça fait penser, non, au récit de la Genèse, la création du monde dans l'Ancien Testament.
Exactement, au chapitre 1er de l'Ancien Testament. Les Égyptiens ont donc développé une mythologie pour répondre à leurs principales interrogations. Pourquoi sont-ils sur Terre? Quel est le sens de la vie? Comment expliquer l'origine du mal? Bref, toutes ces questions que sont aussi posées les autres civilisations.
Alors là, vous parlez de mythologie, mais c'est quand même pas la seule mythologie qui explique qu'on s'intéresse beaucoup encore aujourd'hui à l'Égypte antique.
Non, bien évidemment, il y a aussi et surtout les pharaons. 30 dynasties laissent quand même certaines traces. Alors, je ne vais pas vous en faire la liste, mais on peut toutefois évoquer la plus fameuse d'entre elles, la 18e, où l'on trouve dans le désordre Thoutmôsis III, le pharaon guerrier, Amenophis IV, le pharaon hérétique, Hatshepsut, le pharaon femme, et bien évidemment Toutankhamon, le pharaon mythique.
Le célèbre.
On peut aussi parler de la 19e dynastie avec Ramsès II, contemporain de Moïse et pharaon de la démesure. Le pharaon est l'héritier et le descendant des dieux, le maître absolu des hommes et le fils et serviteur des dieux. Alors pour le cerner un peu mieux, je vous propose d'écouter la description qu'en fait Florence Maruajol. Elle est égyptologue et l'auteur de l'Égypte ancienne pour les nuls.
Alors le pharaon, donc, qui est le roi d'Égypte, d'après la mythologie, a été créé par les dieux pour gouverner donc le pays et pour leur rendre le culte. C'est l'intermédiaire privilégié entre les dieux et les hommes. Un personnage donc qui va situer forcément au-dessus des simples mortels. Et là aussi, il y a des mythes. Le mythe de la naissance qui explique en fait que le roi est directement le fils des dieux, suivi par le rituel du couronnement, un rituel qui est exécuté dans les temples avec des prêtres qui vont jouer le rôle des dieux. Et au cours de ce rituel, le roi reçoit tous ses attributs, les couronnes. Et là, il est transformé de simple candidat qui était encore un mortel comme les autres en pharaon, roi d'Égypte. Et là, à partir de ce moment-là, il est investi d'une double nature, c'est-à-dire qu'il a une nature humaine. Ça, bon, les Égyptiens ne peuvent pas nier que le roi souffre, qu'il a des maladies, qu'il pleure, qu'il est malade. Donc là, il est bien, ça ressort bien d'une nature humaine, mais que de l'autre côté, après le rituel du couronnement, il est devenu en fait en partie un dieu. Donc il a à la fois cette nature humaine et cette nature divine pendant donc le temps qu'il va exercer comme pharaon. Et c'est après sa mort, là, il va devenir un dieu à part entière avec le culte dont il bénéficiera après son décès. Et en même temps, ce personnage, c'est le seul qu'on va voir dans les temples rendre le culte aux divinités. Si vous allez dans un temple égyptien ou plus simplement dans un musée qui sera plus près de chez vous, où se trouvent des reliefs extraits des temples égyptiens, vous verrez le pharaon qui est en train de faire une offrande, d'exécuter un rite devant un dieu ou une déesse. Mais vous ne verrez pas de personnage privé, le vizir par exemple, ou les grands dignitaires remplir cet office, ni les prêtres. Les prêtres, quand ils sont représentés sur les parois des temples, on les voit dans des rôles subalternes, en train de porter la barque divine, par exemple. Mais le seul qui est autorisé à approcher les dieux pour leur rendre le culte, c'est le roi d'Égypte, c'est le pharaon.
Voilà. Voilà, c'était les propos de Florence Marvejol, égyptologue. Marie-Claude Cudry, on l'entend, le pharaon a donc une double nature, on pourrait dire. Il est mi-homme et mi-dieu. Évidemment, je serais curieux de connaître comment est-ce qu'il vit au quotidien. Est-ce qu'on sait comment vivait un pharaon mi-homme, mi-dieu à l'époque?
Oui, mais on en a une idée assez succincte, car il n'y avait pas encore de paparazzi pour épier les faits et gestes des familles royales. Et contrairement à ce que l'on peut penser, eh bien, le pharaon ne fait pas ce qu'il veut de ses journées.
Alors la journée type d'un pharaon, enfin, on a une petite idée, c'est que finalement ce roi qui est tout puissant, hein, qui pourrait tout faire, mais il a une vie quand même extrêmement contraignante. Alors il se lève tôt le matin, il commence par des ablutions, il rend le culte, bon, il déjeune quand même à un moment donné, et puis il traite les affaires du pays. Et en ce qui concerne la nourriture, il doit garder la mesure en tout, hein, ne pas se montrer gourmand, s'empiffrer de mets qu'il aime particulièrement, et ne parlons pas bien sûr de la boisson, là il faut aussi boire avec mesure, hein, donc garder la mesure en tout. Hein. Après, on n'a pas de documentation précise de la vie quotidienne du pharaon, de même qu'on ne connaît pas vraiment la personnalité non plus des pharaons. On nous a pas décrit, on n'a pas de documentation qui nous décrive la personnalité même d'un Ramsès II ou d'un Toutmosis III. Bon, on peut imaginer que ces pharaons-là étaient particulièrement énergiques. En Toutmosis III, c'est le pharaon qui a bâti l'Empire avec ses conquêtes en Syrie-Palestine, qui a mené 17 campagnes en Syrie-Palestine. Donc on peut quand même imaginer qu'il avait une certaine énergie. D'après ce qu'on sait, bon, apparemment c'est un roi qui était plutôt curieux aussi intellectuellement, qui a ramené un certain nombre de plantes, des animaux, des techniques aussi, comme le verre en Égypte. Ramsès II, bon, là aussi, pharaon qui a énormément bâti, qui est certainement extrêmement énergique et vigoureux. Mais après, savoir si l'un et l'autre, par exemple, avaient un caractère plutôt doux, plutôt gentil, on n'en a absolument pas la moindre idée. On ne peut pas vraiment rentrer dans le détail de ses personnalités. Ça, c'est quelque chose dont on sera toujours frustré.
Les propos de Florence Marvejol, égyptologue. Marie-Claude Cudry, à l'entendre, on comprend que les scribes égyptiens n'ont pas été particulièrement bavards ou dissers sur le quotidien des pharaons. Et pourtant, ces pharaons, on a le sentiment de plutôt bien les connaître.
C'est vrai, et c'est peut-être parce que l'on parle beaucoup d'eux qu'on a le sentiment de les connaître. Prenez Toutankhamon. Alors, il y a cette exposition actuellement à Genève, mais il y a aussi quantité de livres, de documentaires, de films, de bandes dessinées qui nous ont permis de faire sa connaissance.
Et d'ailleurs, on est plutôt fasciné par le destin de ce roi, notamment peut-être grâce aux découvertes des richesses dans son tombeau.
Oui, la fascination, c'est le mot-clé. Il n'y en a pas qu'une, comme va nous l'expliquer Jean-Luc Chappa. Il est égyptologue, conservateur du département d'archéologie au musée d'art et d'histoire de Genève et président de la Société d'égyptologie genevoise.
Bon, d'abord, il y a le côté conte de fées. C'est la Belle au bois dormant, le pharaon méconnu, oublié, qui tout d'un coup refait surface, et avec quelle richesse et quel trésor. C'est une première fascination, je dirais presque d'enfance, le rêve du prince qu'on redécouvre. La deuxième chose, eh bien, c'est toutes les richesses qu'il y a dans ce trésor, les kilos et les kilos d'or qui ont été retrouvés. Alors, ce ne sont pas ceux que l'on voit dans la manifestation de Palais Expo, mais c'est ce qui est resté au musée du Caire. Évidemment, une telle richesse ne peut qu'éblouir et fasciner. On peut ajouter un côté esthétique à tout ce qui concerne l'art égyptien. Et avec le trésor Toutankhamon, on est dans des objets d'extrême qualité préparés pour un pharaon qui avait les moyens et qui ne se préoccupait même pas trop de savoir s'il privait le reste de son peuple de biens essentiels en jouant la carte de fabriquer ce trousseau funéraire absolument prodigieux. Et puis alors, d'une façon peut-être plus philosophique, il y a ce paradoxe. Nous sommes tous mortels, les pharaons l'étaient aussi. Finalement, tout est construit autour de la mort, d'un au-delà auquel les Égyptiens croyaient, un peu différent de nos croyances contemporaines. Et donc, oui, on est face à cette esthétique, cette beauté, et puis en même temps, ce néant que peut être la mort.
J'ai eu une interrogation quand j'ai visité l'exposition ici à Palais Expo, ici à Genève, de me demander est-ce qu'il était essentiel de faire remonter tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne devait pas laisser la mort s'attribuer toutes ces pièces magnifiques?
Je ne pense pas. En tout cas, si on essaie de se placer du point de vue égyptien, je pense qu'on a eu raison de mettre à jour le tombeau de Toutankhamon parce qu'un des souhaits que l'ancien Égyptien peut avoir, c'est qu'on continue à prononcer son nom et à parler de lui dans la vie éternelle. Donc effectivement, on peut dire en quelque sorte que Carter et Carnarvon, lorsqu'ils ont découvert cette tombe, ont ressuscité Toutankhamon, dont on ne parlerait probablement qu'en note de bas de page dans les manuels d'histoire si on n'avait pas ce trésor fabuleux. Et donc on joue en quelque sorte le jeu de la pensée égyptienne, puisque tout le monde connaît le nom de Toutankhamon, et parmi les milliers de souverains qu'il y a eu de par le monde depuis l'Antiquité, c'est un de ceux qu'on citera tout de suite, même si de son règne, de sa politique, de sa philosophie, on ne sait strictement rien, ou presque. Tout ce qu'on sait historiquement de lui, c'est qu'effectivement il a rétabli les cultes traditionnels à Amon et aux divinités polythéistes de l'Égypte. On lui attribue une campagne militaire dont on ne sait pas très bien s'il y a participé lui-même ou non, s'il est revenu vainqueur ou vaincu. Donc il y a, disons, un gros trou noir dans l'histoire pour ses 10 ans de règne. Mais malgré tout, il reste ces vestiges qui sont dus au seul fait qu'il est mort.
Nous parlons de la fascination pour l'Égypte antique ce soir dans Haute Fréquence avec vous, Marie-Claude Cudry, et vos interlocuteurs. Dans ce qu'on vient d'entendre avec Jean-Luc Chappa, il y a quelque chose qui m'étonne. Il dit que Toutankhamon a rétabli le culte au polythéisme, mais ça veut donc dire qu'il y a eu dans l'Égypte antique une tentative de dépasser le polythéisme et d'instaurer un monothéisme.
Oui, le père de Toutankhamon, ou du moins celui que l'on présente comme tel, Amenhotep ou Amenophis IV, a voulu, durant son règne, imposer un culte exclusif au dieu solaire Aton. Le pharaon va même changer de nom, il va prendre le nom d'Akhenaton, c'est-à-dire l'esprit d'Aton. Mais je vais laisser Jean-Luc Chappa expliquer cette tentative de réforme religieuse, car le musée d'art et d'histoire de Genève a la chance de posséder un relief représentant le pharaon Akhenaton rendant grâce au soleil.
Alors, on a 2-3 documents qui, effectivement, appartiennent au règne d'Akhenaton, dont un fragment de linteau représentant le pharaon en sphinx. Ce pharaon se trouve illuminé par les rayons du soleil, qui est la manifestation extérieure ou visible du dieu que Akhenaton voulait privilégier et honorer, disons, en exclusivité, pour en tout cas ce qui concerne sa personne. Il offre un bouquet de fleurs sur cette représentation au rayon du soleil. Et puis à côté, il y a une belle table d'offrande. Et l'on peut y distinguer toute une dynamique, à savoir que ce soleil, cette manifestation, on va dire, visible ou terrestre du dieu, darde ses rayons vers le roi en lui offrant des symboles comme le signe de vie. Et en même temps, d'autres rayons vont vers cette table d'offrande pour s'approprier le contenu de ce qui lui est présenté, donc le bouquet de fleurs et différents aliments qui sont entassés sur cette gigantesque table d'offrande.
Il y a plusieurs interprétations au fait de savoir pourquoi ce culte à un monothéiste n'a pas fonctionné. Quelle est la vôtre ?
C'est difficile de dire, probablement que c'était un système très élitaire et qui ne pouvait concerner que le roi et finalement ses proches courtisans. Une des difficultés peut-être qu'avait Akhenaton, c'est l'abstraction de sa pensée religieuse, au point que les égyptologues, depuis 2 siècles, essayent de définir quel est le dieu que privilégiait ce pharaon, avec énormément de difficultés, puisqu'il est défini en fait dans les textes par une périphrase. Alors, je peux vous la citer, hein, « Que vive Réararti qui se réjouit à l'horizon en son aspect de lumière qui émane du disque solaire. » Partant de là, essayer de comprendre la divinité. Alors, c'est clair qu'il manquait très certainement, pour que cette religion soit plus populaire, quelque chose qui soit plus ancré dans la réalité quotidienne des croyants ou des fidèles, qui avaient sans doute effectivement des aspirations religieuses assez importantes. Et c'est là peut-être que les choses deviennent intéressantes à étudier aussi, c'est que Akhenaton ne peut pas se contenter d'un discours abstrait comme nous pourrions le faire après tous les progrès que la théologie a apportés à l'interprétation de la religion. Il fallait des signes tangibles et en fait, s'il a prétendu qu'il y avait un dieu à privilégier, il a comme conservé tout l'accessoire ou tout le culte traditionnel en le modifiant que de façon minime. Donc on a toujours un service religieux à l'aube, l'un à midi, l'autre au crépuscule. On conserve certaines formes d'hymnes, on garde les mêmes instruments de culte, les encensoirs, les libations, les joueuses de sistre ou les chanteuses pour le culte à la divinité. Lorsqu'on envisage le monde funéraire, on continue à construire des tombes alors qu'on ne croit plus à Osiris. On conserve certains accessoires qui accompagnent traditionnellement le trousseau funéraire. Il y a toujours des scarabées de cœur alors qu'il n'y a a priori pas de jugement des morts dans la religion marnienne. Donc il y a toujours une adaptation, mais avec le même environnement. Un environnement qui est sémantiquement de plus en plus vide parce que ne correspond non plus aux croyances qu'Akhenaton voudrait promouvoir, mais qui est toujours là. Et donc c'est une chose qui peut-être peut aussi expliquer cet insuccès, en quelque sorte, de cette réforme. Plus peut-être, alors je n'y étais pas, des querelles politiques ou des influences des uns et des autres au sein des courtisans de Tell el-Amarna.
Mais on le constate, Jean-Luc Chapa, quand même, il y a de nombreuses références quand on s'intéresse un tout petit peu à l'Égypte antique et notamment par rapport au christianisme, il y a des références évidentes.
C'est toujours difficile d'être très clair sur ce sujet. On peut dire effectivement qu'il y a une continuité parce que les images sont toujours les mêmes. Vous voulez représenter une femme qui aime son enfant, bien vous le représenterez, une femme allaitant. Alors peut-être que dans la majorité de la population antique, la femme devait être accroupie et avoir l'enfant sur ses genoux. Lorsqu'on veut mettre en majesté cette femme, on la siéra sur un siège ou sur un trône. Alors ça vous donne l'image d'Isis ou ça vous donne l'image d'une vierge. Donc il y a cette continuité qui peut être due à une habitude ou alors simplement, on pourrait dire, au manque de créativité de l'esprit humain. On peut prendre un autre exemple que je trouve très intéressant aussi. On sait que les divinités égyptiennes sont souvent représentées avec par exemple, des corps humains et des têtes animales. Bon, on sait aussi qu'il y a en Grèce ou à Rome des animaux qui sont plus ou moins consacrés ou associés à certaines divinités, l'aigle de Jupiter, le paon de Junon, la colombe de Vénus, etc. Or, nous avons dans les représentations traditionnelles, par exemple des évangélistes, l'habitude d'associer des animaux avec les évangélistes. Hein, Saint Jean avec l'aigle, Luc le taureau, Marc le lion, etc. Or, s'il y a un exemple en Suisse qui est merveilleux, allez à Saint-Ursanne, le portail roman, et vous verrez qu'on a représenté sur les chapiteaux les évangélistes avec des corps humains et des têtes animales. On pourrait croire à une inspiration de l'art égyptien. Je doute qu'à l'époque romane, le sculpteur ait fait le voyage d'Égypte. Donc soit il a finalement un fonctionnement du cerveau qui est à peu près comparable à celui des Égyptiens lorsqu'ils ont créé ces images, ou alors on ne peut pas exclure qu'il en ait entendu parler par des pèlerins qui auraient passé par l'Égypte. Difficile de le dire.
Donc difficile aussi pour vous de répondre à cette interrogation de votre collègue, la Française Christiane Desroches-Noblecourt, qui s'interrogeait de savoir justement si l'Égypte antique n'a-t-elle pas pavé la voie du christianisme.
Alors du christianisme, c'est beaucoup dire, du monothéisme, oui, peut-être aussi de l'espoir d'un au-delà dans lequel nous continuerions à exister certainement avec le mythe d'Osiris et toute la tradition, que ce soit le livre des morts ou d'autres livres funéraires, qui ne sont autres que la possibilité aux défunts de s'assimiler au soleil et de revenir à la vie. Maintenant, il y a un autre aspect qui est assez intéressant. On ne sait pas si l'Égyptien voyait beaucoup plus loin que son village ou son quartier. Il est clair que lorsqu'on prend certains hymnes égyptiens qui ont l'air d'être tout à fait polythéistes, alors je quitte à caricaturer un peu parce que je n'ai pas le texte sous les yeux, on a des hymnes à Amon, donc c'est un dieu, un des grands dieux, roi des dieux dans la région de Louxor. Et quand on essaie de le décrire, on va nous dire Amon, il est aussi Ré quand il est le soleil dans le ciel. Il est aussi Horus parce que c'est lui qui est le pharaon. Il est aussi Montou lorsqu'il se fâche parce que c'est le dieu guerrier. Et quand il est à peu près savant, il est l'équivalent du dieu Thoth. Donc un dieu va se définir parfois grâce à l'usurpation, on pourrait dire comme ça, de l'identité des autres. Là, c'est dans un contexte relativement recherché du point de vue théologique. On a d'autres contextes où on peut imaginer que le dieu local est tout ça à la fois, sans qu'on cherche forcément à l'identifier aux uns ou aux autres. Et on a un petit peu ça aussi à la fois dans l'Ancien Testament, peut-être même dans le Nouveau, où le dieu peut être un dieu vengeur, peut-être un dieu de miséricorde, peut-être un dieu des batailles. Donc on ne lui donne pas un autre nom, mais on lui rajoute des épithètes qui vont montrer sa polyvalence. Et puis autre point qu'on peut aussi ajouter, ce sont les textes qu'on un peu plus philosophiques des Égyptiens, les textes des sagesses, comme on les appelle, où souvent ces textes mentionnent la divinité, mais sous simplement l'appellation « le dieu » ou « la divinité », on traduit comme on peut, sans mentionner exactement de quel dieu il peut s'agir. Et de là, je crois, dès le 19e siècle, les égyptologues ont émis l'idée qu'il y avait une sorte de tendance ou de précurseur du monothéisme dans ces textes, du fait qu'on s'adressait à un dieu au singulier et que cette divinité englobait finalement tous les aspects humains lorsqu'il s'agit par exemple de, à la rigueur morale et surtout d'éthique.
Les propos de Jean-Luc Chappa, égyptologue à votre micro, Marie-Claude Cudry. Ce qu'il dit, ça laisse donc comprendre que les apports de l'Égypte antique peuvent aussi éclairer la culture judéo-chrétienne quant à l'émergence du monothéisme.
Absolument.
Alors, ça veut dire que la boucle est bouclée ?
Non, pas tout à fait. Écoutez ce qu'a à nous dire Otmar Kehl. Il est spécialiste de l'histoire des religions. Il a enseigné de nombreuses années à l'université de Fribourg. Et lorsqu'on lui demande si on peut établir une complémentarité entre l'Égypte antique et les textes bibliques, par exemple, voici sa réponse.
Oui et non. Dans le cours de mes recherches, qui sont maintenant assez longues, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de relations entre le paganisme et les religions monothéistes. Et c'est aussi le cas avec le monde actuel, qui a beaucoup de contacts interreligieux. Et j'ai développé la notion du œcuménisme vertical, qui souligne les cohérences, les relations historiques entre les différents mouvements, entre les différentes religions. Mais naturellement, chaque développement a un dynamisme à lui. Et aujourd'hui, je trouve de temps en temps, on exagère un peu ce qu'on a en commun. Vous voyez, chaque connaissance humaine, il a des expériences, il a des interprétations. Ça vaut même pour Jésus. Au 16e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, Jésus demande ses disciples au dire des hommes, qui est le Fils de Dieu ? Qui est l'homme ? Ça veut dire, ils appellent soi-même Fils de Dieu, ça veut dire simplement l'homme. Qui est l'homme ? Moi. Ils disent, oh, les uns disent, il est un prophète. Les uns disent, il est le prophète Élie qui est revenu. Des autres disent, non, c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Des autres disent, c'est le Messie. Et Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Voilà, il y a au moins quatre interprétations de phénomène Jésus, c'est un phénomène historique, mais ça vaut aussi pour les dieux polythéistes. Il y a le dieu de la lune, il y a une centaine de dieux de la lune. C'est le phénomène de la lune qui est partout le même, on dirait, mais déjà dans certaines langues, il est masculin, terre, monde, aux autres, il est féminin, la lune. Alors vous voyez, ça vaut pour n'importe quoi. Il a une expérience, il a un phénomène, il a une interprétation. Le christianisme, d'une manière large, était d'abord établi en Égypte. Ils ont reçu beaucoup d'idées, de symboles, de visions de l'Égypte. Mais il a aussi une contribution particulière du judaïsme. Naturellement, c'est aussi une question, on ne peut faire que des spéculations parce qu'il n'a pas de réponses précises, on ne peut pas faire des statistiques, etc. Mais je pense que le christianisme, c'était une religion inclusive. Il est surtout l'héritier du judaïsme, ça c'est le plus important héritage que le christianisme a reçu. Il a aussi des éléments et beaucoup de contributions de l'Égypte antique. Mais c'est plutôt l'héritage qu'on reçoit peut-être d'un oncle ou d'une tante qui n'a pas d'enfant elle-même. Et que ce qu'on reçoit des parents, alors je différencierai un peu. Mais il a certainement une contribution de l'Égypte ancienne.
Les propos de Otmar Kehl, professeur émérite d'Ancien Testament à l'Université de Fribourg et spécialiste de l'archéologie du Proche-Orient. Marie-Claude Cudry, nous sommes au terme de ce dossier sur la fascination qu'exerce l'Égypte antique et en particulier les figures du pharaon, dont Toutankhamon, une très grande figure. Est-ce que peut-être on pourrait se demander si ce qui fascine autant dans l'Égypte antique, c'est aussi d'être relié à la grande histoire par les traces que les tombeaux des pharaons, notamment Toutankhamon, ont laissées et auxquelles on peut encore avoir accès aujourd'hui, notamment les momies aussi.
Alors certainement, bon, juste par rapport aux momies, c'est vrai qu'il y a un petit côté surprenant de voir une momie telle qu'on peut voir par exemple au musée du Caire. Alors il y a un petit côté dérangeant de se retrouver face à la momie de Ramsès II.
C'est quand même... dans l'intimité d'un mort.
On est vraiment dans l'intimité d'un mort. On a un cadavre en face de soi, mais c'est vrai qu'il y a 5000 ans d'histoire derrière, et on le vérifie aussi en allant voir cette exposition actuellement à Genève, à Palexpo. On rentre dans un tombeau, mais un tombeau d'une richesse exceptionnelle.
Merci beaucoup en tout cas Marie-Claude Gudry pour nous avoir emmené revisiter cette grande histoire, cette histoire fascinante de l'Égypte antique. Et puis si vous souhaitez consulter des informations complémentaires sur l'exposition dont nous avons parlé ou sur ce dossier, consultez notre page internet rts.ch/haute-fréquence.
Du manque d'Orient, qu'aucun soleil ne m'emmène vers des chats aux yeux perçants, qu'aucun vent ne vient d'Aden pour me sabler le champagne, qu'aucun tapis ne m'envole sous les barrières, les montagnes, sous les barrières, les montagnes. Alors je m'affranchis, me désenclave, me désesclave, je m'adresse des timbres tarabiscotés, des langues étranges et roulantes, aux arabesques intrigantes, aux arabesques intrigantes. Je zoome sur Oum, le ton d'une mélopée, je zoome sur Oum, et ça me désoriente. Je zoome sur Oum, le ton d'une mélopée. Je zoome sur Oum, et ça me désoriente. Quand je m'oxyde l'Occident, gris, quand tout est terne, qu'ici la vie montre les dents, voudrait se croire éternel. Quand le désert parle à mon âme, me dit le vent vient du Levant, et que j'entends ces je t'attends, que j'entends ces je t'attends.
Sentir romper. quelques ondes sur ombre, le temps d'une mélopée.
Zoom sur Oum, une chanson de Rachid.